France Musique.
Bah, qu'est-ce que tu pêches ?
La musique.
Ah bah voilà une drôle d'idée.
Ça doit être un musicien, comme il est sensible.
Vivaldi est plus plasticien que peintre.
Les instruments, il leur fait jouer ce qu'ils peuvent très bien jouer. Et ça sonne merveilleusement bien.
Comment est-ce qu'on rencontre la beauté ?
On crée de la beauté avec les malheurs qu'on vit.
Il s'empare de la matière et il fait des formes.
Je suis Antonio Vivaldi.
Sol Gabetta, violoncelliste.
C'est un explorateur dans sa musique, d'aller chercher au-delà des capacités peut-être qu'un être humain pourrait avoir. C'était quelqu'un d'une imagination extraordinaire, qui ne réfléchit pas à rester dans un cadre de ce qui est possible ou pas possible.
Vivaldi, l'explorateur, est également un grand voyageur. Il quadrille la péninsule pour y faire connaître sa musique. Mantoue, Vérone, Ferrare, Florence, Milan, Rome, toujours entouré par son père Giovanni Battista, mais aussi par la chanteuse Anna Giro et sa sœur. À l'automne 1719, il obtient le poste tant convoité de maître de chapelle de la chambre du landgrave Philippe de Hesse-Darmstadt à Mantoue. Ce titre lui offre une protection salutaire pour qui veut se faire une place dans le réseau politico-musical de la péninsule. Deux années plus tard, il regagne Venise sans pour autant rentrer les mains vides. Armé d'une lettre de recommandation du gouverneur de Mantoue à l'attention de l'ambassadeur impérial à Venise, Vivaldi se fait progressivement une place sur l'échiquier politique italien. Ses opéras sont déjà repris à travers toute l'Europe et les commandes affluent de toutes parts.
Quatrième épisode. Antonio Vivaldi, l'Européen avant l'heure.
Olivier Forès, musicologue.
Petit à petit, Vivaldi va commencer à gagner beaucoup d'argent, avec l'opéra notamment. On sait aussi que quand il vendait ses concertos, il les vendait assez cher. Donc il avait quand même un rapport à l'argent, aux affaires, assez important.
Vivaldi est quand même un sacré coquin sur le plan du commerce.
Patrick Barbier, historien de la musique.
C'est vraiment un commerçant vénitien dans l'âme. Il a beau être prêtre, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à une petite entourloupe, si c'est possible. Un jour, un Allemand vient le voir pour lui commander 4 ou 5 concertos. Mais cet Allemand lui dit « Malheureusement, je repars en Allemagne dans 3 jours. J'imagine que vous n'y arriverez pas d'ici là. » Et Vivaldi lui répond « Ah mais repassez après-demain, vous aurez vos concertos. » Il est fort possible qu'il y avait déjà des concertos écrits sous le coude et qu'il lui fait croire qu'il va les écrire pour lui en 3 jours. On sait très très bien aussi que bien des fois, Vivaldi a refilé pour 9 un opéra d'occasion. En reprenant des bouts de telle ou telle chose, et hop, il vous sert un nouvel opéra, et il le fait payer. C'est un homme qui a le sens des affaires, un commerçant, et s'arrange très très bien aussi avec les lois, et qui négocie très très bien ses contrats.
C'est quelqu'un qui savait que l'argent était quand même important, donc il avait une attitude assez pingre. Il ne faut pas oublier qu'il maintenait toute sa famille. Toute sa vie a été quand même liée beaucoup à sa famille, donc très populaire. Sa mère, ses sœurs ne savaient même pas écrire. Il avait 2 frères très particuliers qui ont été bannis de Venise, à moitié bandits, à moitié ceci. Donc, il avait besoin d'argent pour maintenir toute sa famille.
Sylvie Mamie, musicologue.
Vivaldi, à la fois, est resté toute sa vie attaché à sa ville de Venise, mais en même temps, il a quand même cherché à échapper à cette ville qui devait quand même lui paraître un peu étroite et à conquérir des lieux prestigieux. Dresde, Vienne, Prague. C'est à la fois un vénitien, profondément vénitien, mais en même temps quelqu'un qui est vraiment un Européen avant l'heure. Il faisait publier toutes ses œuvres à Amsterdam, chez un très grand éditeur. De là, ses partitions pouvaient circuler dans toute l'Europe. C'est quelqu'un qui a voulu être un musicien international.
Patrick Barbier.
On a à Amsterdam l'éditeur le plus moderne de toute l'Europe. Ce Français, Étienne Roger, et son gendre, Le Seine, vont former là-bas une imprimerie qui est techniquement la plus moderne d'Europe et qui surtout a ce génie de faire un catalogue de vente par correspondance. C'est-à-dire qu'on achète les partitions sur catalogue qui sont envoyées partout en Europe, à Lisbonne, à Madrid ou à Vienne. Alors, c'est une très très bonne idée de Vivaldi, qui a très bien compris, en fin négociant, que les imprimeries vénitiennes étaient complètement larguées, si je puis dire, alors que Venise a inventé l'imprimerie musicale. C'est ça qui est fou, l'imprimerie musicale est née à Venise. Mais sauf que, au temps de Vivaldi, les imprimeries ne sont plus du tout performantes, alors qu'Étienne Roger fait vraiment ce travail.
Olivier Forest.
La musique de Vivaldi, on la retrouve vraiment partout, certainement plus qu'aucun compositeur de son époque, de l'Espagne à la Suède, l'Angleterre, on retrouve aussi en Amérique, à Prague, même jusqu'à Saint-Pétersbourg ou en France. Donc à partir de là, beaucoup de personnes, de musiciens, ont souhaité aller le rencontrer à Venise. C'est le cas par exemple du violoniste Pissendel, qui était à l'orchestre de Dresde et qui descend en Italie pour étudier avec Vivaldi. Il reste carrément 2 ans avec lui. Il a appris plein de compositions de Vivaldi, il a continué à lui acheter énormément de compositions toute sa vie. Donc en revenant, il a été un énorme vecteur de la musique de Vivaldi à Dresde, qui était à l'époque le centre musical le plus important de l'Allemagne. Vivaldi a aussi travaillé avec l'ambassade de France à Venise, donc il y a aussi tout un lien qui a pu se créer au travers de cette ambassade et la France.
Ton Excellence, l'ambassadeur de France, lui a demandé de donner un concert dans son ambassade pour fêter la naissance des demoiselles de France, les filles jumelles de Louis XV.
On sait que des chanteurs aussi de Vivaldi qui travaillent avec lui au Sant'Angelo ont fait des tours et ont largement diffusé beaucoup d'airs de lui, même de la musique sacrée. Donc c'est un peu tous ces vecteurs. Vivaldi était donc un compositeur très recherché.
Frédéric IV, roi du Danemark et de Norvège. J'étais très honoré d'assister à cette exécution, maître. Cette composition, comme toutes vos œuvres, est d'une limpidité inouïe. Vous serez mon invité personnel au bal que l'on donne à mon ambassade cet après-midi, en mon honneur, et maintenant le vôtre.
Sylvie Mamie.
À Venise confluaient, surtout pendant la période du carnaval, des personnalités de très haut rang, des rois, des princes. Quand ces personnalités venaient à Venise, elles voulaient écouter Vivaldi en privé. Dans leur palais, elles faisaient venir Vivaldi, ou bien dans des petits lieux adaptés même à l'hospice de la Pietà.
Une grande soirée est donnée à la Pietà en l'honneur du prince Frédéric Christian, fils du roi de Pologne. La salle de concert a été ornée de damas et de brocarts. Elle est brillamment illuminée. Une cantate allégorique, le chœur des muses, est jouée par les meilleures musiciennes de la Pietà et le concert est complété par 4 pièces instrumentales d'Antonio Vivaldi, parmi lesquelles le magnifique concerto pour violon principal et 2e violon en écho.
Il faisait un peu le pont entre les empereurs et une situation très 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 populaire à Venise. Il a plutôt butiné à droite à gauche qu'il ne s'installait dans une institution réelle.
Ce grand voyageur n'aura jamais une occasion de jouer dans les plus grands théâtres de la péninsule, même si cela implique un rythme effréné mettant sa santé fragile à rude épreuve. Le travail mené avec acharnement commence à payer, il s'est construit un réseau solide, mais cela suscite désormais les convoitises. Qui plus est, le succès qu'il rencontre avec les concerts donnés à la Pietà ne fait qu'attiser les jalousies.
Le théâtre à la mode, où méthode sûre et facile pour bien composer et exécuter l'opéra italien en musique à l'usage moderne.
Ce pamphlet que l'aristocrate Benedetto Marcello a publié contre Vivaldi, le théâtre à la mode, est très souvent cité. On le voit représenté en une petite caricature sur la couverture du livre, sur une barque, un prêtre avec une perruque. Et voilà, on caricature ce prêtre qui, en fait, au lieu de dire la messe, est en train de se corrompre avec des femmes dans les théâtres qui échappaient un peu à ce style rigoureux qui donnait tout à la virtuosité, à la mélodie, une sorte de pop star d'une certaine manière, hein, qui n'était pas du tout le goût de l'aristocratie vénitienne. Donc quand Vivaldi essayait de négocier des contrats de haut niveau, par exemple avec la cour de Mantoue, il était maître de chapelle du prince de Hesse d'Armstadt, c'était aussi pour échapper aux rivalités, à toutes les attaques qu'il subissait dans sa propre ville.
Suzanne Orlando, musicologue.
À quel point il était fameux de son vivant, est-ce le fait que sa musique parle si vite, à quel point il arrive à partager des émotions avec les gens, à toucher les émotions des gens tout de suite. C'est pas tous les compositeurs qui arrivent à faire ça.
La part de génie de Vivaldi, c'est de partir d'un langage très simple.
Amandine Beyer, violoniste.
Imaginons que je parle avec quelqu'un et on n'a pas de langue en commun. Donc on en vient presque à la langue des signes, où on essaye de se faire comprendre par des dessins. Ou... Eh bien, Vivaldi, je pense que ça serait le maître dans cette manière de toucher à travers des sons, même si on ne comprend rien à l'harmonie, c'est-à-dire que l'accord ou que le son ou que le rythme ou que la couleur touche directement la peau sans presque même passer par l'intellect. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de comprendre, on va juste le sentir. C'est vraiment une vibration. Et cette vibration, elle va provoquer de la joie, même si on ne sait pas ce que c'est un accord de septième. Et elle va provoquer de l'excitation, même si on ne sait pas ce que c'est des quatre doubles. Et de la détresse, même si on ne sait pas ce que c'est une dissonance et une résolution. Et même si des fois, il y a des épisodes tristes, c'est jamais long. Et c'est jamais dépressif, on va dire. Il y a toujours peut-être une pirouette à la fin qui permet au moins de fermer la partition avec le sourire. Et voilà, donc si on n'a pas trop d'atomes crochus avec la musique classique, c'est quelqu'un qui arrive quand même à capter l'attention.
Sol Gabetta.
Même un enfant, tu lui mets sans qu'il sache que c'est de Vivaldi, et la mélodie, ça reste comme un tube. La musique de Vivaldi, c'était la musique populaire de l'époque. Cette musique qu'aujourd'hui, nous, on appelle classique, était la musique populaire. Et il y a une facilité à se souvenir de ces thèmes. En tout cas, moi, comme musicienne, quand je commence à jouer un concerto, c'est comme une drogue. On a besoin de plus.
Olivier Fourès.
Plus on le connaît, plus on le trouve attachant. C'est une personne qui pouvait être d'une extrême tendresse. On voit qu'à un moment, par exemple, dans un opéra, il s'occupe d'enfants d'une chanteuse qui a des problèmes, enfin, qui pouvait être très ouvert à des tas de situations très quotidiennes, très banales, très familières, presque même avec les filles de la Pietà, on voit vraiment une grande affection dans leur relation. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui pouvait s'indigner quand quelqu'un jouait pas bien ses partitions, qui avait une patience assez limitée pour certaines situations un peu trop ou figées, ou tendues, ou trop organisées. On peut imaginer quelqu'un d'un peu binaire, capable de passer de l'euphorie la plus totale à des rétrospections et probablement des crises assez fréquemment, en fait.
Comment on peut dire quelqu'un avec lequel vous commencez à parler et immédiatement vous avez un sentiment de vous éloigner de lui?
Fabio Biondi, violoniste et chef d'orchestre.
Je pense qu'il était antipathique parce qu'il était extrêmement narcissiste et il était un peu une grosse tête, voilà.
Quand on écrit une musique comme ça...
Léonore de Recondo, écrivaine.
Il écrit des mouvements pour violon et des airs pour la voix qui sont d'une très grande délicatesse. Donc, quelque chose en lui devait forcément porter cette douceur et cette délicatesse. Mais bon, comme il est très actif, très productif, il écrit, je le vois comme quelqu'un peut-être d'inquiet. Forcément, quand on a tellement de responsabilités en même temps, on devient un peu nerveux.
Il faut que vous reteniez qu'il a écrit 454 concertos, 75 sonates, 15 symphonies, 56 opéras et une multitude d'œuvres religieuses, des oratorios et des cantates.
Olivier Fourès.
C'est assez curieux en fait de voir combien une personne qui se prétend infirme, qui est affaiblie, peut être la même personne qui a fait lever les salles du Sant'Angelo avec son violon, avec des concerts pas possibles, des improvisations exubérantes, qui essayait tous les trucs. Comment c'est possible d'avoir autant créé, d'avoir autant voyagé, d'avoir autant été actif comme virtuose et en même temps d'être infirme? On vient tout simplement de définir un peu mieux la maladie qu'aurait eu donc Vivaldi, et apparemment ce serait quand même une maladie qui dégénère. Il venait des crises d'anxiété, il ne pouvait plus respirer, et petit à petit avec l'âge ça a commencé à l'affecter plus sérieusement. Il se peut en effet qu'à partir de la moitié des années 20, Vivaldi ait commencé à vraiment être assez affaibli.
Fabio Biondi.
Tout ça demandait un effort physique énorme, avec beaucoup d'heures de violon par jour pour tenir physiquement. Dans tout ce qui est voyage, tout ce qui est relation publique, et donc on peut pas faire ça sans un physique adéquat. Toute cette force, tout cet enthousiasme, ça n'a pas duré longtemps. C'est ça la raison pour laquelle il était obligé d'arrêter plutôt rapidement sa carrière de violoniste.
Je vis presque toujours à la maison et je ne sors qu'en gondole ou en carrosse parce que je ne puis plus marcher à cause de ce mal de poitrine. Ou plutôt... de cette étroitesse de poitrine. Aucun seigneur ne m'appelle en sa maison, pas même notre prince, car tous sont informés de mon mal. Tout de suite après le repas, je puis d'habitude sortir, mais jamais à pied.
Sylvie Mamie.
Le père Giovanni Battista Vivaldi est décédé en 1736. Il avait 81 ans et ça faisait quand même longtemps qu'il était alité. Mais il faut considérer que jusqu'à l'âge de 75 ans, ce qui est quand même très tard, Giovanni Battista a suivi son fils partout, même aussi loin qu'en Bohême ou dans des voyages qui étaient très fatigants à cette époque-là. Et je pense que la mort de son père a marqué quelque chose de très grave pour lui. Il se retrouvait un peu seul.
À vers la fin de sa vie, Vivaldi se retrouve dans une situation particulièrement délicate parce qu'il doit monter un opéra en dehors de Venise, à Ferrare. Et il y a carrément 3 opéras qui sont prévus de lui pour la saison. Et en fait, le cardinal de la ville refuse que Vivaldi entre dans la ville.
Ce cardinal Tommaso Ruffo de Ferrare trouve qu'il est un personnage un peu sulfureux, un prêtre qui dit pas la messe, qui vit proche de femmes, dans le théâtre. Il va s'expliquer en disant
« Aujourd'hui, on m'a ordonné de ne pas aller à Ferrare pour y faire l'opéra. Cela parce que, quoique ecclésiastique, je ne dis pas la messe et parce que j'ai l'amitié de la cantatrice Giro. J'ai sur les épaules le fardeau de 6000 ducats d'engagement signés pour cet opéra. Et à l'heure qu'il est, j'ai déjà déboursé plus de 100 sequins. Faire l'opéra sans la Giro n'est pas possible. Car on ne peut retrouver pareille prima donna. Faire l'opéra sans être présent, je ne le puis, ne voulant pas me confier à d'autres mains pour un risque pécuniaire aussi important. D'autre part, ce qui m'afflige le plus, c'est la tâche dont on marque ces pauvres femmes. Il y a 14 ans que nous avons voyagé ensemble dans de très nombreuses villes d'Europe et partout on a admiré leur honnêteté. Tous les 8 jours, elles font leur dévotion. En somme, tout vient de mon mal. Et ces dames me sont très utiles car elles sont au courant de toutes mes infirmités. Aussi, cette interdiction serait ma ruine totale.
Ces répétitions sont mises aux mains d'un certain Beretta, qui fait un désastre complètement. D'ailleurs, Vivaldi est indigné, il le traite d'ignorant, etc. Et donc, c'est un tel désastre que les opéras sont annulés. Et Vivaldi doit tout rembourser. Les danseurs, les scénographes, les chanteurs, les musiciens, enfin tout. Il a toute la production sur les épaules. Il se retrouve vraiment dans une situation très, 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 très compliquée.
L'année suivante, cette grosse déception de n'avoir pas pu présenter ses opéras à Ferrare comme il le souhaitait, et lui-même avait avancé de ses propres finances, donc il se trouvait en quelque sorte ruiné. On voit aussi un opéra qu'il avait présenté au Théâtre Sant'Angelo qui a été un fiasco. On voit une sorte de lente décadence de cet homme qui par ailleurs vieillissait, commençait à arriver à 60 ans, certainement ne se produisait pas si souvent que ça en public, sûrement quand il y avait des hôtes prestigieux, sinon je ne crois pas qu'il jouait si facilement comme ça, un âge avancé pour n'importe quel auditoire. Et il cherchait une échappée, un moyen de se sortir de cette espèce de marécage dans lequel il était en train de s'enfoncer.
Celui qui était parvenu à obtenir les faveurs des plus hauts personnages diplomatiques et des autorités religieuses les plus éminentes perd pied peu à peu, cherchant à réunir les contraires, à s'attirer les faveurs des sphères élitistes et populaires, à conquérir aussi bien le monde de l'opéra que celui de la musique instrumentale. Vivaldi a-t-il perdu ses plumes ? Qui plus est, la concurrence se fait de plus en plus rude. Les Napolitains, maîtres incontestables du drama giocoso, impose ce genre à travers l'Europe et surtout à Venise, et Vivaldi peine à rivaliser. Patrick Barbier.
Venise est en train de se faire damer le pion complètement par Naples. Naples, qui est la grande ville de la péninsule, qui est la 3e ville d'Europe à l'époque. À Naples, on est sur 350 000 habitants, peut-être pas loin de 400 000 à la fin du siècle. Et l'opéra napolitain est en train d'envahir absolument toutes les scènes. La musique qui vient de Naples devient le modèle idéal. Une espèce de nec plus ultra qui est presque pathétique par moments, parce que vous voyez dans certains opéras, par exemple des pastiches de Vivaldi, où Vivaldi a même introduit des airs de compositeurs napolitains métropolitain dans ses propres ouvrages. C'est pour ça que je dis que c'est pathétique, parce que c'est comme s'il se rendait compte que ça devient très difficile maintenant de réussir comme compositeur vénitien, et qu'en faisant appel à des pages magnifiques de compositeurs napolitains, ça va rehausser la valeur de son opéra pastiche. Donc voilà, on voit bien que Naples est en train de tout conquérir. C'est dû à la popularité des quatre conservatoires de Naples qui ont formé à peu près tous les grands castrats et à ce répertoire napolitain extrêmement fort qui est en train d'envahir les scènes vénitiennes. Scritta in questo giorno sposa amata e la mia morte non te che sempre intorno spirto
scritta in questo giorno sposa amata e la mia morte.
Vivaldi pourrait, s'il le voulait, se reposer sur ses lauriers, mais il a en lui trop d'énergie pour jouir d'une vie paisible au coin du feu. Malgré sa santé fragile, il est resté débordant d'activité. Il entreprend des voyages en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, qui le tiendront pendant 5 ans éloigné de sa ville natale. En Autriche, l'empereur Charles VI lui fait présent d'une chaîne, d'une médaille d'or et le fait chevalier. Le souverain apprécie la conversation du musicien et les jaloux murmurent que l'empereur lui a parlé à lui seul en 15 jours, plus qu'il n'a parlé à ses ministres en 2 ans. De fait, Vivaldi était non seulement un musicien accompli, mais il avait de plus beaucoup d'esprit et beaucoup de vivacité.
Sylvie Mamy.
C'est l'empereur Charles VI lui-même qui a suggéré à Vivaldi de venir trouver un lieu en sécurité à Vienne où il serait sûrement très bien payé, enfin où il aurait des conditions très confortable pour un homme de cet âge. Donc Vivaldi a vendu un lot de ses œuvres, de ses manuscrits à la Pietà en 1739, peut-être pour financer ce voyage, qui sait.
Il quitte Venise pour gagner de l'argent, pour se remettre dans l'opinion publique de la musique.
Fabio Biondi.
La seule chose pour laquelle je me demande constamment, c'est s'il est parti seul ou s'il est parti avec quelqu'un. Alors, c'est facile de penser que peut-être Anna Giro, la chanteuse qui était très proche de lui, a voyagé avec lui, mais on ne sait pas. Lui, il a quitté Venise pour faire représenter un opéra à Vienne. Tout ça, c'est une raison claire et évidente de le désir d'être rémunéré, apprécié par un monde qui commençait en Italie à s'éloigner de lui.
Il faut remonter en 1728 pour assister à la première rencontre entre Vivaldi et Charles VI.
L'empereur avait séjourné à Trieste à l'occasion d'un enjeu géopolitique de taille, la construction d'un nouvel arsenal. Et c'est avec un bal que s'était clôturé ce séjour, un bal fait de doux concerts d'instruments. Vivaldi a sans doute eu l'occasion de dévoiler toute sa virtuosité violonistique, mais aussi ses talents de courtisan. N'est-ce pas à l'empereur lui-même que Vivaldi dédie son recueil de 12 concertos intitulé « La Cetra » ? 12 ans plus tard, au printemps 1740, Vivaldi a 62 ans et se met en route pour Vienne, où il vivra les derniers mois de sa vie.
Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir, une saga de Saskia Deville, réalisée par David Travailleur. Lecture, Marc Saez et Guillaume Potier. Collaboration éditoriale et documentation sonore, Aline Billette. Assistance de Lina, Mylène Touchet. Mixage, Mathieu Tourin. Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir est un podcast original de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.